sont fidèles et qui demeurent fidèles au Seigneur, ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux, bien, nous souhaitons la bienvenue dans cette célébration du 14 décembre déjà. Et au travers les partages, puis on invite tout le temps les gens à participer, à se joindre à nous le dimanche matin, parce qu'on a des temps aussi merveilleux dans la présence du Seigneur avant d'ouvrir et qu'on soit connectés. Et au travers les partages tantôt, les prières, et j'avais cette pensée plutôt. J'avais cette pensée, voyons, les pages sont collées. J'avais cette pensée au travers les prières tantôt qui me revenait. Je pensais, Jésus qui est le premier, le dernier, l'alpha, l'oméga de l'Apocalypse. Et j'avais aussi cette pensée de Isaïe chapitre 9, où il nous a parlé de la révélation de Jésus qui devait venir. Dans cette prophétie, il nous a dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres. Et parfois, on a cette analogie, hein, cet exemple que malgré qu'on ait les yeux ouverts, que les lumières soient allumées, que l'intérieur, nous marchions, nous soyons dans les ténèbres. Où les choses sont difficiles, où on voit plus en avant de nous. Et on est obligé de faire confiance à chaque fois qu'on avance d'un pas, parce qu'on voit absolument rien. Parce que les ténèbres sont pesants, sont épais. Et ça nous dit dans Ésaïe chapitre 9, que le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière, a vu cette grande lumière. Et malgré l'état où il était, où il marchait, où il était dans ses ténèbres profondes, il a vu cette lumière qui est apparue. Et pour ceux parfois qui sont loin du Seigneur, hein, ou que nous, souvent, on prend comme exemple lorsqu'on passe des moments difficiles, lorsque la lumière du Seigneur paraît dans notre vie, bien, tout change. On était partagé tantôt dans le psaume, comment est-ce que la parole nous éclaire, comment est-ce que le Seigneur nous éclaire par sa parole, comment est-ce qu'il veut nous donner sa lumière à lui, venir en nous afin que lui nous éclaire dans la situation dans laquelle on se trouve. Et ça nous dit ici, sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière même resplendit. Et même lorsque la mort est proche, lorsqu'on voit la mort hein, qui s'en vient, il y a une lumière qui resplendit dans son cœur, dans sa vie. Et qu'est-ce que ça le produit? Une joie profonde. Une joie immense. Et c'est ce que Ésaïe nous dit au verset 2. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Amen. Il nous accorde, lui, le Seigneur, notre Dieu, une grande joie malgré les circonstances dans lesquelles on se trouve ce matin. Dans le temps des fêtes, bien, il y a des temps où on parle de la lumière, on parle du Seigneur, on parle de joie, de gaieté, mais à travers cette joie, cette gaieté, il y a aussi des ténèbres, des moments difficiles, des moments où ce que nous sommes, où nous pouvons vivre l'abattement, même pendant le temps des fêtes. Est-ce que c'est possible? Oui. Oui. Parce qu'on peut être même dans la joie extérieure et physique, mais à l'intérieur, être complètement détruit. On peut paraître une personne joyeuse, hein, comme l'histoire du clown, hein, c'est un frère qui nous avait apporté cette histoire-là, comme l'histoire du clown où ce que il faisait rire les gens sur la rue et ainsi de suite. Et le soir, il devait enlever son déguisement, son apparat, et aller voir le psychiatre. Et le psychiatre lui dit, « Bien, qu'est-ce qui se passe avec toi? » Il dit, « J'ai des ténèbres profondes, je vis par des moments difficiles. » Le suicide même me vient à l'esprit. Et lui, il lui dit, « Bien, va voir le clown dans la rue. il va te donner la joie. Et c'était lui. C'était lui, ce clown. Il faisait rire les autres, mais lui-même était détruit à l'intérieur. Est-ce qu'il y a une espérance? Oui, en Dieu. Je dirais oui en Dieu ce matin. Dans notre Seigneur Jésus-Christ, il y a de l'espérance même pour celui qui pense être rendu près de la mort, ou même qui pense à la mort. Le Seigneur lui vient, et qu'est-ce que ça nous dit? Ce n'est pas mon texte de ce matin, mais le Seigneur me dirige ce matin dans cette pensée. Qu'est-ce qu'il nous a dit par la suite? Que celui qui devait venir comme cette lumière dans le monde, et on va voir tantôt au travers le message dans Jean chapitre 1, bien, ça nous dit que ce Fils est né pour nous. Un Fils, un enfant nous est né, Ésaïe 9, 5, un Fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, et quoi? Prince de paix. Prince de paix. Comment est-ce que Jésus s'est présenté à nous? Voici, je suis cette paix que tu recherches. Je suis celui qui apporte la paix et qui donne la paix de Dieu. Non pas celle qui vient des hommes, mais celle qui vient de Dieu. Nous l'avons à travers son Fils. Il est venu afin de donner à l'Empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Amen. Amen. De David, nous avons reçu cette prophétie. Elle est accomplie à travers Jésus, son Fils, le Fils de Dieu. Donc, dans ce temps des fêtes, bien, nous entendons parler de toutes sortes d'œuvres de bienfaisance aussi. Hein? C'est encourageant de voir des organismes qui prennent à cœur les démunis et ceux qui les entourent. Et certains appellent ce temps de l'année un temps de bonne grâce, ou encore, peut-être vous avez déjà entendu cette expression, peut-être plus québécoise, un temps d'accomplir notre BA, notre bonne action de l'année. Oui, une fois par année. Hein? Comment? Oui. Ouais, comme s'il y avait quelque chose à essayer de régler avant la fin de l'année. Ouais. J'aime ça. Mais le message de ce matin, bien, est un enseignement et une bienveillance qui va nous apporter à adorer Dieu, qui va apporter notre cœur à glorifier le Seigneur. Non pas par des actes, des actions quelconques, par tout ce qu'on pourrait accomplir comme BA, comme bonne action, hein, en fin d'année, ou comme œuvre de bienveillance, mais en reconnaissance de ce que lui a fait pour nous. En reconnaissance qu'un Fils nous a été donné et qu'il est venu afin que nous ayons la vie et la vie en abondance, nous dit la parole. Wow! Quelle belle promesse! Une promesse que Dieu fait à chacun de ceux et celles qui placent leur foi et leur espérance en lui. Et comme vous voyez, je ne sais pas, on est encore dans Ésaïe. Le titre de ce matin, je ne sais pas s'il avait été affiché, qui nous dit « Vivre et grandir dans la grâce ». Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'on va voir au travers le message de ce matin. Parce que des fois, on a une idée fixe ou centrale de c'est quoi la grâce. Mais on va voir au travers du message que la grâce, elle a beaucoup de place. Et elle prend beaucoup de place. J'étais en train de parcourir un livre avec des frères de l'Église Renaissance, pasteur de l'Église Renaissance à Québec, qui nous parle de conduire l'Église. Et à travers nos partages, et ainsi de suite, bien, on voit comment est-ce que la grâce elle est importante. Et comment est-ce qu'elle s'applique dans différents aspects de notre vie spirituelle, dans notre marche avec le Seigneur. Et dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 18, où est notre texte de ce matin, que nous allons lire ensemble. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est le dernier verset de la deuxième épître de Pierre. Et dans ce troisième chapitre, ça nous est parlé, comme le titre, thème de ce chapitre 3, qui nous parle de l'avènement du Seigneur. Donc, c'est le grand titre du chapitre 3. Et qui se termine par ces paroles de Pierre, où il nous dit, « Mais croissez ou progressez sans cesse, dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. » N'est-ce pas des paroles qui concluent bien? Je ne sais pas pour vous, mais je trouvais que ça conclut bien cette pensée de l'avènement du Seigneur. Le Seigneur revient. Oui, soyez prêts. Mais comment être prêt à l'avènement du Seigneur, au retour du Seigneur, dans les derniers temps dans lesquels nous sommes? Bien, Pierre nous dit de croître et de progresser sans cesse, de ne pas arrêter de grandir dans la grâce de Dieu. C'est quelque chose qui ne doit pas arrêter, même sachant les temps dans lesquels nous sommes. Même si je sais ce matin que, c'est par une révélation, que Jésus revient, c'est écrit, nous l'avons la promesse. C'est une promesse et une prophétie que je sais qui va s'accomplir. Parce que le Seigneur l'a dit. Donc, je fais confiance à ce que Dieu, à ce que la parole de Dieu me dit ce matin. Ce que le Seigneur me dit, c'est ne perds pas courage, mais continue de grandir, de croître sans cesse, chaque jour. Dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il y en a des titres, hein? Et Pierre prend le temps de dire, la connaissance dans laquelle tu dois grandir en grâce est celle de notre Seigneur, qui est notre Maître, c'est ce que ça veut dire, et Sauveur, en qui j'ai été libéré une fois pour toutes, mais aussi Jésus, l'Emmanuel, dont Dieu est avec toi. Et qui est, lui, le Christ, le Messie, celui qui devait venir, celui en qui j'ai placé mon espérance et qui a tout accompli les promesses le concernant de tout l'Ancien Testament. N'est-ce pas ce qu'il a dit lorsqu'il était sur la croix? Tout est accompli. Tout est accompli. En trois mots, Jésus vient de conclure et de fermer la prophétie. Dans le contexte, bien, dans les versets précédents, le jour du retour du Seigneur, il avertit les croyants de rester fermes dans la foi et dans l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ et des apôtres. Donc, c'est une recommandation de demeurer ferme dans la parole de Dieu. J'ai entendu quelque chose de complètement hors contexte, où une personne, en tout cas, qui se dit conduire le peuple de Dieu, disait, on n'a plus besoin de la parole. Est-ce que Jésus a dit de suivre la parole de Dieu? Qu'est-ce que Jésus disait? Suivez-moi. Et qu'est-ce que Jean nous dit? Que Jésus était la parole vivante. Si je suis Jésus, je dois suivre la parole. C'est indispensable, c'est indissociable. Je ne peux pas suivre la parole sans suivre Jésus, et je ne peux pas suivre Jésus sans suivre sa parole. Ce serait insensé. Nous avons besoin de garder cette parole pure et vraie, et qu'elle soit ancrée, enracinée profondément en nous. Parce que les temps viennent où? Hein, les temps sont venus, comme dirait Paul, qui disait même dans son temps. Hein, lorsque les apôtres parlaient, nous écrivaient, nous ont écrit, eux pensaient que c'était là le moment où le Seigneur venait. Mais toutes les prophéties n'étaient pas accomplies. Israël n'était pas revenu une nation qui s'est faite dans les années 1900. Et beaucoup de prophéties concernant le peuple d'Israël ou la guerre, des temps de paix juste avant le retour du Seigneur et ainsi de suite, les déserts vont refleurir et l'eau va jaillir dans les déserts. On voit tout ça aujourd'hui. Toutes ces prophéties du retour du Seigneur, on appellera le mal bien et le bien mal. Et comment est-ce qu'on voit ça croître aujourd'hui dans la génération dans laquelle nous sommes? Tout nous pointe et tout pointe vers l'avènement du Seigneur. Et l'Église du Seigneur, qui est chaque croyant, hein, doit profiter de la grâce. Je le dis comme ça. Doit rechercher la grâce et qu'elle soit grandissante en nous. Cette grâce qui nous vient de Dieu. Vivre et grandir et avoir une croissance qui produit, hein, qui provient et qui produit quelque chose, mais qui vient de l'intérieur. Qui est semé en nous et qui est répandu à travers nous. Et cela n'est possible que le jour où nous recevons Jésus dans notre vie. La grâce de Dieu nous a été révélée dans le Fils. Et j'aime prendre cette analogie où Jésus est venu sur la terre et il est né. On fête Noël. Dans le fond, c'est pas Noël qu'on fête. C'est la naissance du Sauveur. La naissance du Messie qui est venu naître dans notre vie, dans notre cœur. Pour nous, c'est ça. C'est pas les cadeaux. Parce que le plus beau cadeau, hein, j'ai fait à peine j'ai fait un petit montage ce matin, je ne sais pas si ceux qui nous suivent sur les réseaux le voient. J'ai fait un petit cadeau, hein, parce que le temps des fêtes, ça nous rappelle les cadeaux. Mais le plus grand et le plus beau cadeau que l'humanité ait reçu, c'est Jésus. C'est qu'il est venu naître dans notre vie, qu'il est venu afin de sauver son peuple, un peuple qui lui appartient. Et que ce salut soit répandu sur toute la terre, dans tout le monde, dans toutes les nations, dans tous les peuples, nous dit l'Apocalypse. Ce salut qui atteint tout être vivant qui se tourne vers le Sauveur, vers le Messie. Avant même que Pierre enseigne sur la connaissance du Seigneur, il est important de comprendre que la grâce de Dieu en nous doit déjà avoir transformé notre cœur. C'est pour ça, tantôt, je parlais d'une grâce qui est de l'intérieur et qui grandit à l'intérieur. Et Pierre parle de cette grâce. Il dit, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Sauveur. » Il commence en partant, hein, de croître dans la connaissance, premièrement. Je pense que c'est important ce qu'il parle. Ce qu'il dit ici. Il met l'emphase premièrement sur la grâce et ensuite la connaissance et l'enseignement. Parce qu'il faut expérimenter d'avoir reçu le Seigneur pour comprendre les enseignements de Dieu. Je peux avoir lu les paroles de Dieu pendant des années et même enseigner la parole de Dieu sans même avoir goûté à la grâce, au salut. Sans même avoir été libéré. Je peux connaître la théologie, mais est-ce que tu connais le Sauveur? Est-ce que tu connais, premièrement, est-ce que tu as connu la grâce de Dieu, son cadeau? Parce que c'est ça, hein, une grâce. Puisque la grâce de Dieu, que fait-elle en nous, dans notre vie, dans notre cœur? Bien, premièrement, je dirais que la grâce pardonne. C'est la première action, la première chose que la grâce va produire en nous lorsqu'on reçoit Jésus comme Seigneur Sauveur. Elle va pardonner. Elle va te pardonner. Pourquoi est-ce qu'elle pardonne? Afin que tu sois libre et que tu sois éclairé par le Seigneur. Afin que sa parole ne soit pas seulement une lecture comme le journal ou comme un bon livre, mais qu'elle produise en toi, qu'elle se révèle en toi et que tu aies pas seulement une connaissance, mais une relation profonde avec Dieu. C'est ça qui est le problème aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on essaye de diminuer, de mettre la Bible dans une étagère à la poussière? Parce qu'on n'a pas compris ce principe. Qu'il faut premièrement recevoir le Seigneur dans notre vie, être pardonné, libéré de nos péchés, afin d'avoir une relation vraie avec notre Créateur, notre Dieu. Lorsque nous plaçons, ce que je place ma foi dans le Seigneur, le pardon, je demande pardon au Seigneur, qu'est-ce qui se produit? De la joie, la paix, qu'est-ce que ça produit lorsque j'accepte le Seigneur dans ma vie et que je suis pardonné? Je me sens libre, libéré. Et même la loi de Dieu n'est plus un fardeau. Elle devient léger. La loi devient légère, légère. Elle n'est plus quelque chose qui va m'asservir, mais plutôt quelque chose qui m'amène à la libération. C'est ce que la parole de Dieu produit en moi lorsque j'accepte Jésus, j'accepte son pardon. J'ai besoin, et nous avons tous besoin, et tu as besoin du pardon ce matin. C'est ce que nous avons besoin. Sans le pardon de la grâce de Dieu qui nous a été donné de lui, je ne peux goûter la présence de Dieu. Je ne peux avoir une relation même avec lui parce que j'ai besoin du pardon. Notre frère nous partageait la semaine dernière sur le temple. Et comment c'était important que le sacrificateur devait se laver, se purifier, avant d'entrer dans la présence de Dieu une fois par année. S'il aurait rentré sans être expié, si vous voulez, sans avoir reçu le pardon, qu'est-ce qui arrivait? Il mourait. Et aujourd'hui, on essaie de s'approcher de la parole de Dieu, de la présence de Dieu, sans avoir expérimenté le pardon, sans être libéré, sans avoir accepté Jésus dans notre vie. Ça ne marche pas. C'est la grâce de Dieu qui a été manifestée pour nous et envers nous qui nous transforme et nous délivre. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire par nous-mêmes, en récitant des prières ou en répétant des phrases, des prières quelconques, même s'ils ont de la belle, les prières, même s'ils ont des beaux mots bien choisis, ce n'est pas ce qui va faire la différence. Ce qui fait la différence, c'est la grâce de Dieu. C'est ce que lui t'a donné. C'est ce que lui a donné qui fait la différence. Et ça, il n'y a aucun prix, aucune prière qui peut remplacer ça. Paul nous disait dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, et j'aime revenir avec ce passage, où Paul nous dit « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » C'est ce que Dieu t'a donné comme cadeau. Est-ce que tu veux recevoir ce cadeau? Un cadeau qui va te libérer, qui va te transformer, qui va te donner cette relation avec Dieu lui-même. Parce que quand Jésus est mort, le voile s'est déchiré afin que tous puissent rentrer dans la présence de Dieu. Et on peut encore le faire par la foi dans le Fils. En Jésus, nous pouvons nous approcher de Dieu avec une pleine liberté, pleine assurance. La croissance spirituelle ne peut être et se faire qu'avec la grâce ou à cause de la grâce de Dieu que lui a donnée, que lui a pourvue, premièrement. Dans l'Évangile selon Luc, nous pouvons lire ceci au chapitre 24, versets 45 à 47. Il dit « Alors, il, en parlant de Jésus, leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprirent les Écritures. » Ça commence bien, hein? C'est Jésus qui rouvre l'esprit afin que tu comprennes ses enseignements. On ne peut pas comprendre les enseignements du Seigneur par nous-mêmes. La profondeur, la grandeur, la largeur, la hauteur, la connaissance de Christ. Que si lui t'ouvre l'esprit, t'ouvre les yeux, ouvre les yeux de ton cœur. Place ta foi en lui ce matin et il va faire ce miracle en toi. Il poursuit en disant, « Afin qu'ils comprissent les Écritures. » Verset 46, il leur dit ainsi, « Il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. » Verset 47, « Et que la rédemption et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom, au nom de Jésus. » La repentance et le pardon des péchés est prêché, annoncé et enseigné sur toutes les tribunes. Hein, c'est ce que je souhaite ce matin. Dans le nom de Jésus. On n'a pas besoin d'un mort, de ressusciter d'un mort ou d'aller vers les morts. Dans le nom de Jésus qui est ressuscité et qui est vivant ce matin. À toutes les nations, à commencer par Jérusalem, qui était son peuple, à toutes les nations. Est-ce que je fais partie des nations ce matin? Amen. Amen. Nous faisons tous partie d'une nation. Qu'importe ceux qui nous écoutent, qui sont de l'Afrique, qui sont de la France, qui sont au Québec, à Québec ou Montréal, parce qu'il y en a d'un petit peu partout qui nous regardent, nous sommes la nation de Dieu. Et Dieu se révèle à nous, frères et sœurs. Et il se révèle par la repentance et le pardon des péchés. C'est par cela que le Seigneur ouvre nos yeux. Par sa grâce. Par l'action de sa grâce. Pour bien comprendre en quoi nous devons avoir une croissance, bien, le mot grâce vient d'un cadeau, premièrement. Un don qui est reçu ou offert gratuitement, c'est un acte de bonté, une faveur, une marque d'affection, de clémence, d'amour qui est transmis à travers elle. Amen. Wow! Et il y a cet aspect de la grâce, hein, si vous avez bien suivi, qui a en elle, dans ce cadeau ce matin, et si je rouvre ce cadeau que je vais trouver, tout ce que je viens d'énumérer est l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu. C'est pour ça le cœur. Et l'amour de Dieu. D'habitude, on sort ça à Saint-Valentin. Hein? Mais on a besoin tous les jours de son amour. On a besoin chaque jour de l'amour de Dieu. Afin qu'il nous aide, qu'il nous éclaircisse et que ce ne soit pas seulement un sentiment, Mais que, vous savez, l'amour, c'est pas juste un sentiment. Mais c'est quelque chose qui jaillit de l'intérieur. C'est quelque chose qui nous habite, qui habite chaque être humain et qui est répandu en nous. On n'a pas des frissons juste pour une petite chose, mais pour une grande chose. L'amour de notre femme, premièrement. Mais au travers de la grâce, nous avons l'amour de Dieu. Et pourquoi je fais référence? Parce que Dieu est notre amour aussi. Parce qu'il nous a aimés, je l'aime en retour. C'est pas moi qui l'ai aimé premièrement. La parole de Dieu nous dit qu'il m'a aimé avant même que je l'aime, que je m'approche de lui. Il avait des desseins éternels pour chacun de nous, nous dit les Écritures. Il nous avait choisis, prédestinés dans sa grâce, à être ses enfants d'adoption. Bien que nous ne soyons pas, je vais vous dire, juifs, le Seigneur nous a acceptés. Je veux dire israélites aussi. Mais le Seigneur nous a tous acceptés. A accepté toutes les nations de la terre à travers ce cadeau, à travers sa grâce. C'est à cause de la grâce de Dieu que nous ne sommes plus seuls. Nous avons cet aspect-là aussi à travers la grâce. La grâce fait de nous des fils et des filles, a fait de nous des héritiers, des co-héritiers avec Christ, a fait de nous une famille, un lien qui nous unit par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, on n'est plus seul. Il nous a unis à lui et au Père. Dans 1 Jean chapitre 1, verset 7, il nous a dit, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement, quoi? Exclus? Non. Nous sommes mutuellement en communion avec lui. Mutuellement en communion. Ça, c'est un lien qui ne peut se défaire. C'est un lien qui demeure et qui est là toujours. Il ne peut plus se défaire. Nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Pour ceux qui viennent dans une assemblée évangélique, pour la première fois, on dit, ils parlent souvent de sang, eux autres. Oui, parce que c'est par le sang, par la grâce et le sacrifice de Jésus que nous avons la vie, que nous sommes libérés. Ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est à cause du don de Dieu. La grâce est un cadeau de Dieu qui est reçu et offert gratuitement à ceux qui sont pardonnés, à ceux qui sont pardonnés et qui placent leur foi en Jésus. Dans Romains chapitre 5, l'Épître aux Romains chapitre 5, verset 15, il nous a dit à plus forte raison, « La grâce de Dieu et le don venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup? » La grâce et le don. La grâce et le don d'un seul homme qui est Jésus-Christ ont été abondamment. Ce n'est pas quelque chose, la grâce qui vient seule, mais lorsqu'elle vient, elle vient en abondance, avec toutes sortes de bénédictions, de dons que Dieu donne. Et cela est répandu sur des personnes en particulier, non, sur des élus spécifiques qui vont être à la tête de grands ministères, non, mais sur tout. Tous, sur tous, sur beaucoup, sur tous, je dirais ce matin. La grâce nous révèle l'amour de Dieu dans et à travers le Fils, la compassion et l'affection que le Seigneur nous porte, qui agit et grandit par sa grâce en nous. C'est à cause de sa compassion et de son affection qu'il a envers nous que la grâce grandit. Il nous aime bien trop pour nous donner juste une parcelle de la grâce, de sa bonté, de son don, qu'il nous en donne d'abondance. Parce qu'il nous aime. Il a compassion de nous. Éphésiens, chapitre 1, verset 7, Paul nous dira ici, en lui, en parlant de Jésus-Christ, « Nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Encore une fois. Tout cela, la rédemption que nous avons par son sang, la rémission ou les péchés qui nous sont enlevés, bien, sont tous des richesses de la grâce de Dieu. Ils font tous partie des richesses de sa grâce. Vous avez reçu toute grâce jusqu'à en être rempli et que vous progressiez en elle. Nous avons reçu gratuitement et c'est pour cette raison que nous devons donner à notre tour gratuitement. Lorsqu'on réalise la grâce de Dieu qui nous a été faite en nous et qui s'est révélée en nous, je vais aller là. Comment je peux charger aux autres ce qui m'a été donné? Comment je peux donner, ou charger plutôt, à d'autres croyants l'abondance de grâce que Dieu m'a faite dans sa révélation? Toute la parole de Dieu nous est donnée. Les prophéties de Dieu nous ont tous été données et écrites. Et nous avons tout pleinement en lui ce matin. On l'a chanté. Nous avons tout pleinement dans le Seigneur ce matin. Comment je peux prendre ce que le Seigneur m'a donné puis charger aux autres pour leur donner ce que le Seigneur m'a donné? C'est un petit peu ça l'affaire. Oui, on a besoin d'un bâtiment, on a besoin d'un lieu pour se rassembler, on a besoin d'être exhorté, encouragé dans la grâce et dans l'abondance, dans la disette, dans le combat aussi. Mais tout cela, frères et sœurs, c'est gratuit, parce que ça nous vient de Dieu. Ce que je vous partage ce matin, c'est gratuit. Mais c'est gratuit pour moi aussi. Et ça me fait du bien, moi aussi. Et nous sommes édifiés tous ensemble. Malgré qu'on a un bâtiment à payer, on a des choses à payer, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ça coûte quelque chose. Certains disent, ouais, mais là, tu parles de tout gratuitement, bien, tu nous invites à l'Église, puis est-ce que tu vas t'attendre à tel salaire? Tu vas t'attendre à que faut que je te donne quelque chose? Ou que. Donne selon ce que le Seigneur a donné à ton cœur de donner dans la joie. Il n'y a personne qui va aller voir ton portefeuille. Donne ce que le Seigneur a mis sur ton cœur de donner, puis le Seigneur va s'occuper du reste. Pour l'électricité, et le pasteur. Je dois être obligé de le dire. Parce que c'est biblique. Certains ont peur d'aller dans une église parce que là, il va falloir qu'ils pourvoient au bâtiment, à l'électricité, et ainsi de suite, et au pasteur. Mais ça fait partie des enseignements des apôtres. Mais je ne vous chargerai pas à l'entrée. C'est la différence. Il n'y a personne qui va vous attendre à l'entrée avec un panier ou une facture. dit la dame des trésoreries. Parenthèse. Mais on sait que tout coûte de quoi aujourd'hui? Tout coûte quelque chose. Mais lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, qu'on est béni, qu'on reçoit sa grâce, qu'on reçoit ses bienfaits, la guérison, on reçoit la joie ensemble, d'être ensemble et de participer ensemble. Ça vaut tous les trésors. Ça vaut tous les trésors de la terre. Mais soyez certains que j'ai fait une étude dernièrement. J'étais en train de terminer une étude sur l'évangélisation et je vais faire sûrement d'autres études depuis. Quand on fait mystère, souvent, dans les églises, on amène toutes sortes d'études, toutes sortes de choses. Mais il n'y a rien qui vous est chargé. Et je ne chargerai jamais rien. Parce que le Seigneur m'a dirigé, m'a béni à travers des études, au travers des choses que je veux partager. Et que j'aime partager. Parce que ça me fait du bien et que je sais que ça va vous bénir aussi. Que ça va vous bénir aussi à travers ces choses. Mais la grâce est un cadeau. Toutes les richesses de la grâce sont des cadeaux. Toute la connaissance et l'enseignement que le Seigneur nous donne sont des cadeaux, sont une grâce. Tout ce que le Seigneur accomplit en moi afin que je grandisse, je progresse dans la grâce, dans la foi, dans le salut. Hein, c'est ce qu'on voit à travers les Écritures. C'est gratuit. Avez-vous pensé? Il y en a qui payent des sommes faramineuses pour aller chercher le meilleur spécialiste dans le monde pour essayer de se libérer d'un fardeau, se libérer de leur temps de désert, d'angoisse ou quoi que ce soit, lorsque la grâce de Dieu nous est offerte gratuitement. Son amour nous est offert gratuitement. Sa présence nous est offerte gratuitement. Tout ce qu'il fait, il le donne par amour, par compassion. Tel un père qui chérit ses enfants. Tel un parent qui chérit ses enfants. Vous avez reçu toute grâce jusqu'à en être rempli. Quel verset j'ai donné? je suis parti un matin. Le Seigneur dirige, puis on laisse aller les choses. On est rendu à la deuxième partie. C'est ça? Je m'en... Comment? 1 pièce 5, 15? 1 pièce 5, 7. 5, 10. Bon, merci. j'étais correct dans mes notes d'abord. Vous avez reçu gratuitement jusqu'à en être rempli et que vous progressiez en elle. Nous avons reçu gratuitement et c'est pour cette raison que nous devons donner aussi à notre tour gratuitement. Hein? C'est quelque chose qui est naturel pour nous. Quelque chose qu'on a reçu et qu'on est tellement béni qu'on veut bénir les autres. Ce n'est pas quelque chose de donné, comme on fait lors de BA de l'année, hein, qui doit se limiter seulement à Noël ou au temps des fêtes, mais quelque chose qui fait partie de notre vie et qui est là et qui jaillit en nous. 1 Pierre, chapitre 5, verset 10, ça nous dit ici, « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ, à sa gloire, va paraître même dans vos défis. Un autre aspect de la grâce, que lorsque on passe par des moments difficiles. On parlait au début, hein, on parlait de désert au travers des partages et prières, au travers d'une lecture que nous était faite au début. Qu'importe la situation difficile dans laquelle on se trouve, la grâce de Dieu est disponible. Cette grâce qui va venir sur toi, hein, qui nous a été donnée en Jésus-Christ, bien oui, elle ne t'enlèvera pas le défi. Mais elle va t'aider à passer au travers ton défi. La grâce de Dieu, c'est elle qui va t'aider à passer au travers. Elle ne te l'enlèvera pas. Parce que, par expérience, hein, je pense qu'on serait toutes des expériences vivantes ce matin, que marcher avec le Seigneur, parfois, ça amène des défis. Et cela n'est pas exempt. Mais la différence, c'est que tous les défis à laquelle nous faisons face, comme croyants, comme enfants de Dieu, nous savons que nous avons cette relation avec le Fils, hein, et avec Dieu qui est là, disponible, et que sa grâce agit en nous. Et qu'elle va nous aider à passer au travers nos souffrances. Elle va nous perfectionner, nous affermir, nous fortifier, jusqu'à nous rendre inébranlables. C'est à ça qu'elle sert, la grâce de Dieu dans l'épreuve. Certains vont dire, on n'a pas besoin de passer à travers les épreuves, on est en Jésus-Christ, on est libéré. Mais ce n'est pas ce qu'on vient de lire ici dans 1 Pierre. Hein? La parole de Dieu nous dit que la grâce du Seigneur, Jésus nous a appelés à sa grâce afin que lorsqu'on va passer des temps de souffrance, le Seigneur va permettre qu'il ne dure pas longtemps. Parfois, on dit, Seigneur, tu me penses si fort que ça. Parce que le Seigneur veut nous faire grandir aussi à travers différentes épreuves, différentes souffrances, afin de nous perfectionner, nous affermir, nous fortifier. Nous avons été appelés, frères et sœurs, par Dieu en qui réside toute grâce. C'est ça qui est notre espérance ce matin. C'est ça qui est notre joie. C'est ça qui nous stimule, même dans la joie, dans la peine, dans la tribulation, la souffrance, à continuer à persévérer. Parce que nous savons qu'auprès de lui, nous avons toute grâce. Et que ce don agit en nous et qui nous fortifie dans chaque souffrance par le Seigneur, que la grâce nous perfectionne, affermit et nous fortifie, nous rend inébranlables. Nous ne devrions jamais nous diminuer par rapport à nos épreuves. On ne devrait jamais se diminuer à cause de nos épreuves. Car la grâce de Dieu est toujours à l'œuvre dans notre vie. Qu'importe l'épreuve, la maladie ou le travail et le don ou le talent que le Seigneur m'a donné, nous devons toujours compter sur sa grâce. Et pourquoi je commençais cette pensée avec « nous ne devrions jamais nous diminuer » bien, dans 1 Corinthiens, 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 10, Paul dit ceci, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Et ça peut paraître défaitiste, à première vue. Parce que par la grâce de Dieu, c'est comme si Paul disait ici, « Par la grâce de Dieu, je ne suis pas à point. Je ne suis pas la meilleure personne. » Dans le sens de solidité, de comment je peux dire, d'être rendu à un point tel d'être parfait en tous, en tout. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et la grâce envers moi, ou sa grâce envers moi, n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus qu'eux tous. Une autre pensée. J'ai été malade plus que tout le monde. J'ai fait l'œuvre plus que tout le monde, un peu ce que Paul parle. Il nous dit ici, hein? Il dit, je suis ce que je suis. Je ne suis pas parfait et loin peut-être d'être parfait. On peut se sentir comme ça. On peut se sentir défaitiste parfois. Et il va jusqu'à dire, j'ai même travaillé plus que les autres. Hein, j'ai fait le ministère, je parle du Seigneur, je fais plein de choses pour le Seigneur. Mais son raisonnement l'amène à dire ceci, mais non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Paul se sert des choses qui peuvent nous paraître négatives dans notre vie. Hein, il parle de deux choses en particulier, soi-même ou ce qu'on fait, qui peut parfois nous décourager, nous attrister ou... Bien, nous devons réaliser qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour le Seigneur qui soit pour lui inutile ou en vain. C'est ça la pensée de Paul. Car lorsque nous comptons sur le Seigneur, sa grâce est répandue en nous et sur nous. Et c'est sur sa grâce qu'il faut compter. Et non sur nos propres forces ou nous-mêmes. Si je compte sur ma propre force personnelle, hein, je vais dire, bien, comme Paul, je suis ce que je suis. Et je m'aperçois que je suis pas parfait, puis je suis loin d'être parfait. Et c'est Paul qui parle et qui donne ce témoignage-là. Lui, que nous voyons comme une colonne et comme dans l'Église, comme une personne que Dieu s'est servi abondamment, qui a vu la gloire de Dieu, qui a vu les miracles, qui a marché avec l'Esprit, par l'Esprit de Dieu, Seigneur. Et qui nous dit ce matin, alors comment est-ce que moi-même je pourrais dire avoir atteint la perfection? Paul réalise qu'en tout cela, même par rapport à lui-même, qu'il est ce qu'il est. Et la grâce de Dieu n'a pas été vaine envers lui, parce qu'il a compté sur lui, sur le Seigneur. Et non sur ses propres forces. Il dit, loin là, j'ai travaillé même. J'ai fait l'œuvre. Mais il dit, même encore là, tout ce que j'ai fait ne compte pas. Si la grâce de Dieu n'est pas là. Si je ne compte pas sur la grâce de Dieu. Combien est-ce que la grâce de Dieu opère dans notre vie? Et sert dans l'accroissement dans notre progression et notre marche avec le Seigneur. Tite, dans l'épître de Tite, chapitre 2, versets 11 et 12, il nous a dit ici, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Verset 12, « Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. » Une autre chose que la grâce vient faire dans nous, qu'on voit à travers ce passage, elle vient se révéler, elle vient nous enseigner à renoncer à l'impiété. Comment est-ce que la grâce peut faire cela? Par le Seigneur, par l'œuvre de Jésus, par son salut. La grâce de Dieu est la source de salut qui libère le croyant, l'enfant de Dieu, et c'est par C'est par elle que nous sommes libérés du péché. Et nous montre comment vivre d'une manière à être digne et béni par Dieu. Donc, la grâce de Dieu est la source. Est la source du salut, ou de salut. C'est en elle qu'on va rechercher, qu'on va être nourri et qu'on va être béni. C'est à travers elle qu'on va être capable de renoncer au péché aussi, par la grâce. Deuxième partie, ce matin, de 2 Pierre, chapitre 3, verset 18, où il nous était dit, « Mais croissez, progressez sans cesse dans la grâce. » Et la deuxième partie est aussi dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, afin que lui seul reçoive la gloire, maintenant et pour l'éternité. Bien que nous croissions dans la grâce, bien Pierre nous enseigne que nous devons aussi grandir dans la connaissance du Seigneur, car comme nous venons de voir dans l'Épître à titre, et qui nous enseigne à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, afin que nous rendions gloire au Seigneur. Donc, toutes ces choses sont unies ensemble. Certains l'appellent la grâce de la prophétie de l'Évangile, car elle est la révélation de la personne de Jésus. Il n'y a aucune prophétie ce matin qui va me faire tomber en bas de ma chaise, comme on dit, si elle ne vient pas de la parole de Dieu. Si elle n'est pas de la parole de Dieu, elle n'est pas inscrite dans ce livre. Parce que la parole de Dieu nous a été révélée. Et il n'y a aucune prophétie qui peut sortir un matin, qui ne viennent de la parole de Dieu, en qui je peux avoir confiance. Ça pourrait être un ange, un esprit, un ressuscité, qu'importe la prophétie qui est prononcée, doit être dans la parole de Dieu, doit venir de la parole de Dieu. Sinon, elle est sans valeur. Jean, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 14, nous pouvons lire ceci. La parole a été faite chair, n'est-ce pas? La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Comment est-ce qu'elle a habité parmi nous? Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé la gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. À qui fait référence Jean? À Jésus. Verset 15, Jean lui a rendu témoignage. Il s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu, quoi? De sa plénitude, en parlant de Jésus. Et grâce pour grâce. La grâce revient encore ici, dans la personne de Jésus. On a reçu toute la plénitude, la connaissance et la révélation du royaume de Dieu, et de la présence de Dieu, et de l'Esprit de Dieu, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. Ou encore, nous avons reçu en lui notre part de la surabondance divine qui nous remplit. Il a déversé sur nous, l'un et l'autre, de ses bénédictions et ses faveurs. Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers et par Jésus-Christ. Donc, elle nous est révélée dans la vie de Jésus, à travers la vie de Jésus. Même la loi de Moïse est révélée à travers Jésus, parce qu'il est la parole qui nous a été donnée par Dieu à Moïse au travers les commandements, les 10 commandements et les autres commandements, parce que s'y rattachent 350 quelques lois aussi, elles nous sont données à travers la loi de Dieu, mais aussi elle nous est révélée ce matin par l'Esprit de Dieu qui vit en nous, dont Jésus a fait la promesse qu'il devait venir. Elle nous a été donnée afin que la grâce et la vérité habitent en nous par la personne de Jésus-Christ. En effet, Jésus est la parole de grâce et d'amour de Dieu pour nous. Et tous ceux qui croient, qui placent leur foi en lui, en Jésus, l'aiment à cause que lui nous a aimés. À cause que lui nous a aimés. Paul nous dira dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 16, ce qui conclut le message de ce matin, Paul nous dira ceci, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Verset 17, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Amen. On a ces deux points, encore une fois, qui sont réunis au travers de ce que Paul nous dit. On a vu ce qu'avait Pierre, ce qu'il nous disait dans notre texte de ce matin. Et Paul, il vient, encore une fois, comme approuver ce que Pierre avait dit, ce qu'on a lu tantôt. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, amen, parce qu'il est vivant, parce qu'il est ressuscité, parce qu'il vit, il peut rendre témoignage à lui-même, à notre esprit, qu'il est le Fils de Dieu et même notre Père, notre Dieu, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation qui est éternelle et une bonne espérance. N'est-ce pas ce que nous avons dans cette grâce ce matin, dans sa grâce et dans sa parole? Une bonne espérance. Afin que nos cœurs ce matin soient consolés et que nous soyons affermis à toute bonne œuvre. Que nous soyons affermis. Ce que Jésus, ou ce Jésus que nous célébrons et dont la naissance sera soulignée dans quelques jours, devrait être le sujet de notre joie de reconnaissance ce matin, et même à tous les jours. Car ceux qui l'aiment, aiment ce qu'il a fait et ce qu'il est. Ceux qui aiment le Seigneur ce matin aiment ce qu'il a fait et ce qu'il est. La grâce et la parole faites chair pour moi et pour toi ce matin. Bien, nous avons ce privilège, frères et sœurs, d'avoir d'abondantes grâces en lui. Et toutes ces grâces sont manifestées envers nous et agissent envers nous. J'aurais pu apporter encore beaucoup de points. Mais le Seigneur m'a dirigé dans sa grâce ce matin et dans la pensée aussi que la semaine prochaine, on va poursuivre dans cette grâce pour le programme de Noël. Vous savez, on s'arrête une fois par année dans le monde ou alentour, un peu partout, à souligner la naissance du Sauveur, du Messie, qu'on ne connaît pas. Et je crois que c'est un moment propice où justement, on peut parler ouvertement, on peut exprimer ouvertement la grâce et le cadeau, le don que Dieu a fait. Parce que les gens ont déjà l'oreille, ont déjà cette, comme on a vu ce matin, ont déjà cette, ce désir en eux de vouloir bien faire. Mais pourquoi ne pas profiter seulement ou simplement de ce que Dieu lui a fait? Qu'on puisse partager alentour de nous, non pas ce qu'on peut donner, ce qu'on peut faire, mais ce que Dieu a fait, lui, par Jésus qui est venu naître sur la terre. À travers cette fête, certains l'appellent une fête païenne, hein, vous entendez peut-être ça, ces réseaux, et ainsi de suite. Bien oui, à quelque part, c'est païen. Mais pour nous, c'est un moment pour partager le vrai Noël, la vraie naissance. C'est qui, la vraie naissance? Ce n'est pas les cadeaux. Ce n'est pas de vouloir plaire, mais c'est de recevoir la compassion que Dieu a eue pour toi, pour moi, la grâce qu'il a eue, qu'il a manifestée envers nous, par amour pour nous. Et justement, c'est le meilleur temps de l'année où qu'on peut partager cette grâce, qu'on peut apporter par la lumière qui vit en nous, cette lumière dans le monde, afin qu'eux aussi soient éclairés et que leur esprit vienne en communion avec le Seigneur, au salut de Dieu. Je vais vous inviter à vous lever, on va terminer par un mot de prière. Bien, Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, que tu nous invites à progresser dans la connaissance de cette grâce, devrais-je dire, de cette abondance grâce que notre Dieu, notre grand Dieu, a eu envers nous. En se manifestant au travers une naissance humaine, lui qui est divin, qui est grand et tout-puissant, et qui nous révèle au travers cette naissance et cette vie, bien que nous pouvons avoir une liberté, que nous pouvons avoir une grâce qui nous habite, qui nous pousse à aimer notre prochain comme lui nous a aimés, qui nous invite à faire des œuvres en voulant faire plaisir aux autres, seulement parce que toi, tu nous as aimés et que tu nous as donnés en premier. Merci, Seigneur notre Dieu, pour cet amour que tu as manifesté, que tu as eu envers nous, qui n'était pas digne. Et que malgré nos imperfections, bien ce matin, que ta grâce, que cette grâce, Seigneur, puisse grandir et progresser en nous afin de nous libérer, afin de nous rendre, Seigneur, parfaits au jour de l'avènement du Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole qui nous éclaire, qui nous conduit et qui nous fait connaître ta personne, qui nous fait connaître Jésus. Et Seigneur, merci pour ton esprit qui nous habite ce matin. Continue de te révéler, Seigneur, par ton esprit, par ta grâce en nous, afin qu'on puisse grandir davantage. Même malgré nos défis, même malgré nos imperfections, nos douleurs ce matin, bien nous savons que nous pouvons avoir cette joie profonde, parce que c'est toi qui es notre joie. Nous voulons te bénir, te louer, t'adorer, te glorifier ce matin, à cause de ton nom, qui est au-dessus de tout nom, ayant en qui tout genou fléchit ce matin, pour la gloire du Père. Bien, soyez bénis, passez une belle semaine et que le Seigneur vous comble de toutes ses grâces, de toutes ses abondances, ses dons. Amen. Je vais inviter l'équipe de louanges à s'avancer.